Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons nos émissions sur les vices et les vertus, c'est-à-dire sur la vie chrétienne ancrée dans le Christ et ce qui peut venir nous détacher, nous séparer du Christ, c'est-à-dire les vices. Mais nous sommes toujours dans les vertus. Nous avons vu d'abord les vertus cardinales, je vous rappelle, la prudence, la justice, la force et la tempérance, des vertus humaines que tout homme peut cultiver, puisqu'on parle de cultiver une vertu, c'est-à-dire des habitudes, des réactions spontanées qui se créent dans nos comportements grâce à la pratique de ces vertus. Et nous sommes passés, depuis la dernière émission, aux vertus théologales. Théologales, pourquoi ? Parce que théos en grec, nous savons, c'est Dieu, et donc théologal, parce qu'elles ont Dieu pour origine, mais aussi pour objet. Donc nous recevons ces trois vertus, on parle ici de la foi, de l'espérance, de la charité, nous les recevons directement de Dieu, mais elles ont pour objet Dieu lui-même. Nous allons voir aujourd'hui l'espérance. Alors, avant de parler de façon plus spécifique de la vertu d'espérance, parlons un peu de quelque chose qu'on perd dans notre culture aujourd'hui, petit à petit, qui est le sens de l'attente. Voyez, le fait d'attendre quelque chose. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, pas seulement les enfants, mais les adultes aussi, dès qu'on veut quelque chose, et que ce quelque chose est à portée des mains, bien sûr, existe, on peut l'acheter, bien évidemment, quand on veut, on peut l'avoir tout de suite. Il n'y a plus le sens « je vais attendre jusqu'à Noël », par exemple pour les enfants. « Maman, je veux ceci. » Bah, tu attendras Noël, à Noël tu l'auras, ou le jour de ton anniversaire tu l'auras. Aujourd'hui, souvent dans notre culture, nous avons tout, tout de suite, quand on le veut. Alors c'est important de cultiver. Pour cela, l'Église nous donne, par exemple, dans l'année liturgique, le temps de l'Avent. C'est un temps d'espérance, un temps d'attente. On est dans l'attente de la venue du Seigneur. Parce que ce sens de l'attente nous éclaire déjà sur l'espérance chrétienne. D'abord parce que, avant de penser à l'espérance en tant que vertu théologale, donc qui a Dieu pour objet, nous pouvons penser à nos petits espoirs, non pas l'espérance en tant que vertu, mais nos petits espoirs. Quand on dit dans les dictons populaires « ne jamais perdre espoir car l'espoir fait vivre », on veut dire précisément qu'il faut toujours avoir un but. Même s'il est petit dans la vie, nous le savons, par exemple, finir l'université, attendre donc la fin de ma carrière, ou attendre la retraite, ou si je veux toujours rêver d'avoir quelque chose, ou attendre le mariage. Une femme qui est enceinte, forcément, elle doit attendre l'arrivée de son fils. Et donc, nous nous mettons toujours dans la vie des petits buts, et c'est tout à fait naturel et sain, S-A-I-N, c'est quelque chose de très sain que d'avoir ces espoirs humains qui nous poussent à vivre, qui nous aident à nous lever du lit. Qu'est-ce qui te fait lever du lit les matins, par exemple? C'est très triste et très dangereux quand on a perdu tout espoir, quand on ne voit plus rien. Mais bien évidemment, ici dans cette émission, on parle de vertu théologale, donc le Seigneur nous appelle à élever le regard, parce que tous ces espoirs, même s'ils sont naturels et sains, un jour ou l'autre, ils nous déçoivent. Il y en a qui n'arrivent pas à se concrétiser, malheureusement. D'autres se réalisent, mais très vite se fanent, se perdent. Tout ici-bas, nous le savons, passe très vite. Donc le Seigneur nous donne, par l'action de l'Esprit-Saint, cette vertu théologale de l'espérance, qui nous fait regarder vers le haut, qui nous fait regarder vers le Seigneur, vers le ciel, vers la patrie céleste. Ici, nous sommes tous des passages, mais le Seigneur nous promet une patrie. Nous sommes des exilés, comme nous chantons dans le Salve Regina. Nous sommes des exilés qui attendent le but de voyage, qui attendent le repatriement, quelque part, dans le ciel, où le Seigneur nous attend. Et cette espérance finale, qu'on appelle eschatologique, si on veut utiliser un mot un peu plus technique, cette espérance finale que nous avons dans le Seigneur, dans son amour tout-puissant et miséricordieux, cette espérance ne déçoit jamais. Donc mes frères, cette espérance nous donne deux choses. D'abord, elle nous aide à supporter, quelque part, à endurer toutes sortes de contrariétés, des persécutions, des tribulations, tout simplement parce que nous avons les yeux fixés en Jésus-Christ dans les buts de voyage. Cette espérance, on peut la comparer, l'image la plus utilisée, qui est prise d'ailleurs dans la Bible, qui est prise pour l'iconographie chrétienne, quand on veut décrire la vertu de l'espérance, c'est l'ancre. L'ancre du bateau, l'ancre du navire, qui est déjà jetée dans le ciel. Nous savons très bien que quand on jette l'ancre, le bateau reste fixe autour de cette ancre. Donc nous aussi, notre espérance est comme cette ancre qui est déjà dans le ciel, dans la vie éternelle, tant que nous sommes ici-bas. Donc, nous sommes un peu ballottés par le vent ici-bas. Peut-être qu'il y a des tempêtes, peut-être non, il y a des tempêtes qui viennent et qui se déferlent sur nous. Mais nous savons que nous avons déjà l'espérance fixée dans le port, dans le but de voyage qu'est le ciel, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes frères, nous sommes en train de parler de l'espérance, cette vertu théologale. J'ai utilisé l'image de l'ancre, l'image du but du voyage, où nous avons les yeux fixés, peu importe ce qui arrive au milieu du chemin, nous avons la pensée déjà ancrée dans le but du voyage. Mais il y a une autre image qui nous aide à parler de l'espérance. C'est l'image, imaginez-vous, deux personnes amoureuses l'une de l'autre, donc un homme et une femme qui sont amoureux l'un de l'autre. Et bien sûr, on parle ici de Dieu et de toi et de moi, de Dieu et de chacun d'entre nous. Dieu qui nous aime profondément. Or, nous ne les voyons pas pour l'instant. Ce fiancé de notre âme qu'est Dieu, ce fiancé, cet époux de l'Église qu'est Jésus-Christ, nous ne les voyons pas pour l'instant. Et pourtant, nous savons qu'il arrive. Et ça nourrit notre espérance. Imaginez-vous, une fille donc, dont le fiancé est parti en voyage, très loin, très loin. Et il arrive à la joindre par téléphone. Et il lui dit à sa fiancée, « J'arrive ». Mais l'appel est coupé, elle n'entend pas la suite. Mais elle sait qu'il arrive. Donc elle ne sait pas s'il arrive dans l'heure qui suit, dans le lendemain peut-être, dans un mois, l'année prochaine, elle ne sait pas, elle ne sait qu'une chose, c'est qu'il arrive. Et parce qu'elle croit, elle sait qu'il ne va pas mentir, qu'il tient toujours parole, qu'il tient ses promesses, et donc elle sait qu'il va arriver. Et pour cela, elle se prépare, elle fait tout. Elle prépare la maison, ses habits, elle se parfume, prépare le repas, elle prépare tout pour l'arrivée de son bien-aimé. Pour nous, c'est la même chose. L'espérance, c'est ce qui nous pousse vers le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de passif qui nous fait juste attendre là, assis. Non, non. Quand le Seigneur dit « j'arrive bientôt », voici que j'arrive bientôt, c'est un peu le moteur du chrétien, savoir que le Seigneur Jésus reviendra nous prendre avec lui, ressuscité, glorieux, transformé. Et donc, puisque le Seigneur a dit « j'arrive bientôt », nous faisons tout pour préparer sa venue dans l'activité, dans la prière vigilante, dans l'amour du prochain, nous préparons nos cœurs, nos âmes, nous préparons tout pour que l'Église soit prête le jour où son époux arrivera et la prendra avec lui. Voilà une autre image qui nous aide à entrer dans l'espérance. L'espérance, mes frères, a des petites filles, disons un peu comme ça. C'est-à-dire, il y a des vertus qui sont annexes, qui sont en rapport avec l'espérance. La première, c'est la persévérance. Quand Jésus décrit la fin du monde, les tribulations qui arriveront dans le monde, dans les chapitres 21 de Saint-Luc, il dit « c'est par votre persévérance que vous serez sauvés ». Donc, c'est-à-dire que la foi, notre amour, ne peuvent pas être une affaire d'un jour, d'un moment, d'un beau pèlerinage, d'une belle messe, une belle célébration. Non, il faut tenir bon, il faut persévérer. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez, la persévérance est fondamentale puisqu'il y a le facteur temps. Souvent dans l'Église, on a pensé que si un jour je fais une bonne confession, une bonne communion, une prière intense, ça y est, je suis chrétien pour toujours. Non, mes frères, c'est tous les jours, il faut tenir bon, il faut persévérer. Et bien évidemment, dans cette persévérance, il y aura des épreuves. Pour cela, une autre vertu fille de l'espérance, c'est l'endurance. L'endurance qui te permet de tenir bon au milieu des épreuves. Vertu liée à la patience, par exemple. Saint Jacques va nous parler de la patience dans sa lettre en nous disant que nous sommes appelés à avoir patience pendant les épreuves de cette vie, comme l'agriculteur qui attend les pluies du printemps ou de l'automne pour que le fruit puisse arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut attendre la pluie. On ne peut pas avoir un fruit tout de suite. On a planté, on a semé. Il faut attendre que la nature suive son cours dans la patience jusqu'à ce que le fruit arrive, qu'il soit mûr et que l'on puisse le savourer. Mes frères, nous avons une parole de la lettre aux Romains qui nous parle de l'espérance. Je vais vous la lire. C'est une parole très belle de Saint Paul à ces chrétiens de Rome. C'est au chapitre 5, verset 5. « Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous fut donné. » Cette parole donc nous parle des tribulations qui produisent cette persévérance, la persévérance qui produit cette espérance qui ne déçoit point. Nous avons la certitude dans l'espérance de ce que Dieu nous aime, de ce qu'il va venir nous sauver. D'ailleurs, à l'époque de la réforme protestante, c'est de ce côté-là que le Concile de Trente va placer la certitude que nous avons du salut. Je vous explique un peu mieux. À l'époque, les réformateurs ont voulu mettre du côté de la foi la certitude du salut. C'est-à-dire, puisque je crois en Jésus-Christ, puisque je crois en son amour, alors je suis sûr que je suis sauvé. Il n'y a pas de raison pour que j'aille en enfer, au purgatoire. Déjà, ils avaient nié l'existence du purgatoire. Donc, puisque je crois en Jésus-Christ, cette foi me donne la certitude de ce que mon âme sera sauvée à la fin. Or, le Concile de Trente, la doctrine catholique donc, va analyser cela et va dire non, je ne peux pas dire. Parce qu'aujourd'hui j'ai la foi, demain je n'en sais rien. Mais il va donc déplacer cette certitude de la foi à l'espérance. Donc je peux espérer avec une certitude, ce n'est pas moi une certitude, mais dans l'espérance de ce que le Seigneur fera tout et donnera tous les moyens pour que je sois sauvé. D'où l'importance de prier pour la persévérance finale, que nous puissions persévérer jusqu'au dernier jour de notre vie. Et c'est l'espérance qui nous pousse à cela, vous voyez. Et je voudrais terminer notre réflexion avec un poème de Peggy. Un poème de Peggy qui nous éclaire un petit peu sur la relation entre les trois vertus. Je cite « Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles et mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère. Une mère ardente, pleine de cœur. Ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance, elle, est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ce petit sapin en bois d'Allemagne couvert de givre peint, et avec son bœuf et son âne en bois, et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas, puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout, elle seule, pourtant les autres, qui traversera les mondes révolus. J'aime beaucoup cette image, frères et sœurs, de la foi comme une épouse fidèle. Vous vous souvenez, on a parlé de la foi qui veut dire aussi fidélité, confiance. Donc l'image de l'épouse qui est fidèle à son époux, à son mari, illustre bien la foi. La charité, nous la verrons dans la prochaine émission, et comparé à cette mère ou à une sœur aînée qui a le rôle de mère, qui prodigue donc ses bienfaits, son amour concret, on le verra. Et la charité comparée à une petite fille de rien du tout. Moi, j'imagine cette petite fille comme quelqu'un de capricieux, comme une petite fille ténace qui est toujours là et qui veut quelque chose, et tant qu'elle n'a pas eu ces quelque chose, elle n'est pas contente. Voilà une image très parlante, très familiale, voire triviale, de l'espérance chrétienne. Vous voyez, cette fille qui pousse donc, qui prend par ses mains l'épouse fidèle qu'est la foi, la mère qu'est la charité, et c'est l'espérance qui les porte vers l'avant, même au milieu des mondes révolus, même au milieu des mondes éprouvés, nous avons l'espérance qui ne nous abandonne jamais. Prions le Seigneur qu'il puisse nourrir toujours en nous cette espérance. Comme il est dit d'Abraham dans la Bible, Abraham perd dans la foi et aussi le père quelque part de l'espérance, puisqu'Abraham, il a espéré contre toute espérance. À son âge et avec l'âge de sa femme et la stérilité de sa femme, il était impossible pour eux d'avoir un enfant. Et pourtant, espérant contre toute espérance, il savait que pour Dieu, rien n'était impossible. La même chose pour la Vierge Marie, quand l'ange lui dit « Car pour Dieu, rien n'est impossible », là aussi, c'est l'espérance qui nous donne dans la foi de nous jeter dans les bras de Dieu et de lui faire confiance.
Père, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une petite précision, parce qu'il y a le risque de penser que l'espérance, c'est être optimiste, avoir un optimisme naïf qui s'appuie sur quoi, en fait ? Donc, sur nos rêves, sur des illusions parfois aussi. Donc, est-ce que vous pourriez justement apporter une petite précision sur ce qu'est vraiment, enfin, vous l'avez dit, mais la différence, en tout cas, avec l'espérance chrétienne ?
Merci de cette question, elle est très importante aujourd'hui, parce qu'effectivement, quand on confond l'espérance chrétienne, la vertu théologale d'espérance, avec un optimisme naïf, avec nos petits espoirs, nos rêves, c'est les mots que vous avez utilisés, et c'est vrai, on risque de se tromper ou quelque part d'être déçu très vite. Parce que quand on a des petits espoirs déjà, d'une, il faut se baser sur quelque chose de solide, il faut se baser sur l'histoire. Dieu agit et parle dans l'histoire. Mais souvent, il n'écoute pas nos désirs, nos rêves, parce qu'il a un projet plus grand pour nous. Rappelez-vous la parole d'Isaïe au chapitre 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins ». Et autant les cieux sont au-dessus de la terre, sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres et mes chemins au-dessus des vôtres. Donc peut-être que nous, on a un rêve dans la vie, on peut avoir des petits espoirs et le Seigneur ne les réalisera pas puisqu'il a un autre projet pour nous. Quand on parle d'espérance, vertu théologale chrétienne, on parle de cette confiance filiale, cet abandon en Dieu et l'espérance de ce que, à la fin, le bien vaincra le mal. à la fin, l'amour de Dieu triomphera sur toutes les injustices, sur le mal, sur le péché, sur la souffrance, et qu'il nous promet le ciel, une vie éternelle. Au fond, c'est ça. Par exemple, je sais que c'est un exemple difficile pour quelques-uns qui traversent cette épreuve, mais très éclairant et très important d'aborder. L'exemple de la maladie. On peut prier pour la guérison, évidemment, on aime la personne, ou si c'est nous-mêmes qui sommes atteints par la maladie, nous prions pour que le Seigneur puisse nous guérir, nous donner encore un moment ici-bas pour aimer les autres, pour faire du bien. Bien évidemment, c'est tout à fait naturel. Sauf que parfois, le projet de Dieu est tout autre. Et Dieu n'a pas prévu dans son projet la guérison. Et Dieu nous appelle à côté de lui. Parce qu'il sait que nous serons plus heureux, déjà d'une, on ne souffrira pas à côté du Seigneur. Et deuxièmement, on peut faire du bien au ciel aussi. Faire du bien pour toutes les personnes que nous avons connues et aimées sur terre et qui sont encore ici dans le combat, dans la bataille de la vie quotidienne. Vous voyez ? Et donc, si je base mon espérance sur l'optimisme de ce que je serai forcément guéri si je suis malade, mes frères, on risque d'être déçus et malheureusement, il y a des personnes qui ont même perdu la foi puisqu'ils ont tant prié pour la guérison de quelqu'un de la famille puisque la personne n'avait pas été guérie et qu'elle est décédée de la maladie, disent-ils, ils ont perdu la foi. C'est vraiment dommage. On ne peut pas les juger, ça peut arriver à tous, mais c'est vraiment dommage puisque l'espérance chrétienne nous porte sur la victoire finale du Seigneur, de ce que son projet de salut pour toi, pour moi et pour toute l'humanité, sera mené à bien, sera concrétisé, réalisé, porté à son accomplissement. Alors courage, mes frères, ce mot courage aussi qu'on utilise souvent nous rappelle cette espérance. Courage, on va de l'avant, le Seigneur nous pousse, le Seigneur nous porte et nous faisons confiance, nous nous abandonnons à sa volonté qui est bonne, qui est miséricordieuse et qui est toute puissante. Une bonne journée à tous.